Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va, merci Seigneur, je suis en forme. Et je voudrais vous parler aujourd'hui au sujet de la prophétie. Parce que le dernier message que j'ai fait au sujet de l'Antichrist, ça a soulevé tellement de méchanceté et de bêtises. Vous avez peut-être vu sur Révélation Bible, Facebook, que j'ai dû enlever des tas de messages. Il y avait des choses ignobles. Ah, alors moi ça me booste quand on fait des choses comme ça. Je vais vous expliquer davantage au sujet de ces choses parce que je vois que ça dérange les esprits. Donc, vous qui êtes chrétien, je pense que ça va vous instruire, ça va vous faire du bien, ce que je vais vous dire maintenant. On va commencer par faire une lecture dans Actes chapitre 3, verset 21. Acte 3, non 19 déjà, où il est dit « Changez donc d'attitude ». Dans les anciennes Bibles, les versions des années 70, c'était marqué « Repentez-vous ». Changez donc d'attitude et convertissez-vous, c'est-à-dire changez de route. Vous allez dans une direction, vous allez dans une autre. Alors changez donc d'attitude, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Alors il faut remettre ça dans le contexte. C'est l'apôtre qui parle à des Juifs. Et il leur fait comprendre, voilà, c'est Pierre donc qui parle à des Juifs, il leur dit, vous avez crucifié Jésus-Christ, il vous était destiné, vous l'avez crucifié, il vous était destiné. Mais maintenant, il est mort, mais voilà, mais il va revenir. Alors il leur dit, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Amen. Jésus, je te prie de me donner d'être clair dans mes explications afin que mes frères et sœurs puissent bien comprendre et qu'ils n'aillent pas imaginer des choses que je ne dis pas. Merci Jésus. Amen. Donc, là, l'apôtre Pierre est en train de parler à des Juifs, la crucifixion a eu lieu il n'y a pas longtemps, Jésus-Christ est ressuscité il n'y a pas longtemps, et voilà que Pierre monte au temple avec Jean, et puis il y a une guérison, un boiteux qui était là depuis des années est guéri, et puis tout le monde est là à se demander « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il leur dit « c'est pas nous qui avons fait ça, c'est Jésus qui a guéri, ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez rejeté. » Bon, maintenant le ciel l'a accueilli, et il reviendra, c'est-à-dire il l'a accueilli jusqu'au moment de, c'est-à-dire il reviendra à un certain moment. Le ciel l'a accueilli jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé. Alors donc il doit y avoir une restauration totale dont Dieu a parlé par les prophètes, et Jésus reviendra à ce moment-là, dans ce temps-là, au temps où il restaurera toute chose, où il rétablira toute chose, dans les anciennes versions. Alors mes frères et sœurs, notre époque est une époque troublée, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous savez tout ça. C'est une époque troublée, mais ça n'étonne aucun chrétien qui lit la Bible. Je vois des gens, j'entends des gens, mais comment Dieu peut-il permettre des choses pareilles? C'est vrai que c'est terrible, mais voilà. L'homme, l'humanité entière est entrée dans une rébellion contre Dieu, ce qui a entraîné des conséquences. Maintenant, Dieu n'est pas responsable de la rébellion des gens, et moi je fais ce que je veux, vous faites ce que vous voulez. Dieu nous laisse faire, un jour il nous jugera, mais pour le moment il nous laisse faire, mais il y a des conséquences. Alors, toutes ces choses sont annoncées depuis plus de 2000 ans, les choses qui vont arriver. En grande ligne, les choses qui vont arriver, c'est annoncé depuis 2000 ans. Donc on n'est pas étonné, nous autres chrétiens qui lisons la Bible. Si vous êtes chrétien et que vous ne lisez pas la Bible, ça c'est une autre affaire. Mais ça fait tellement longtemps que je vous dis, procurez-vous une Bible, c'est pas difficile. Vous en achetez une sur Amazon, il y en a de très bon marché. Procurez-vous une Bible. Elles sont toutes bien, sauf celle des témoins de Jéhovah, qui est trafiquée. Alors, comme au temps de Noé, Jésus nous dit, comme au temps de Noé, à la fin, ça serait comme au temps de Noé. Et nous sommes arrivés à un point, comme au temps de Noé, à un point de non-retour. C'est-à-dire que Dieu a dit à Noé, voilà, je vais détruire le monde par l'eau, et puis après, une fois que ça a été fait, Il a fait une promesse à Noé, il a dit « Plus jamais je ne détruirai la terre par l'eau, mais par contre, je la détruirai par le feu. » Alors, ça sera définitif. Mais avant que Dieu ne détruise la terre, avant cette fameuse fin du monde dont beaucoup parlent, la fin du monde, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. Il y a encore des centaines et des centaines et des centaines d'années avant la fin de ce qu'on appelle la fin du monde. C'est pas pour demain. Israël est redevenu une nation depuis 1948. Ça, c'est une des choses qui est importante à savoir quand on veut savoir quelle heure il est à l'horloge de l'histoire du monde. On regarde Israël. Israël avait désobéi à Dieu, Israël a été dispersé de par le monde entier, et puis, depuis 1948, la prophétie qui disait qu'Israël serait de nouveau dans son pays, serait de nouveau une nation, cette prophétie est accomplie depuis 1948. Mais Israël n'est pas encore animé par le souffle de Dieu. C'est pourquoi on voit là-bas des choses terribles. Le prophète dit qu'Israël, à un moment donné, serait comme une vallée d'ossements. Écoutez, on va le lire, ça sera plus simple, on va le dire, c'est dans Ézéchiel 37, verset 1. Alors, c'est le Seigneur qui parle avec son prophète, le prophète Ézéchiel. Et voilà ce qui est écrit. « La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. » Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces os. » Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs, la chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux, il n'y avait pas de vie en eux. Il m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux, et ils ont repris vie, et ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. » Ils affirment, donc Israël affirme, « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. » Ça, c'est ce qui s'est passé. Les survivants de la Shoah, n'est-ce pas ? Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous êtes mon peuple et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez. Et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. » Voilà. Ça, c'est ce que tout chrétien sait, enfin, du moins, ceux qui lisent la Bible. Alors, je vais revenir sur cette prophétie. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, comme je vous ai dit tout à l'heure, Israël était devenu comme cette vallée d'ossements, désespérés dans la vallée de la mort des nations. C'était l'horreur, l'abominable. Et Dieu a commencé une œuvre. Il a rassemblé les ossements et il a mis des nerfs. Vous connaissez l'expression le nerf de la guerre? C'est l'argent. Il a mis de l'argent. Dieu a mis de l'argent dans cette affaire. Et la chair a poussé, c'est-à-dire la force, les muscles ont poussé. Et puis ensuite, la peau a recouvert ses membres, ça a commencé à prendre forme. Une nouvelle apparence à ce peuple, au peuple d'Israël. Mais la vie n'était pas en eux. C'est ce que le prophète Ézéchiel a vu et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on vient de lire. Et l'Éternel explique à son prophète ce que signifie cette vision. Un, Israël pleurait, était désemparé, était désespéré, comme des ossements desséchés. Dieu, deuxièmement, les a fait sortir de la tombe où ils se trouvaient, c'est-à-dire de cette horreur, de cette mort, de cette... Israël semblait... Ils ont voulu détruire Israël. Et il y en a encore aujourd'hui qui veulent le faire. C'est le même mauvais esprit qui veut faire ça. Et troisièmement, il les a ramenés dans leur pays d'où il les avait chassés et il les avait dispersés dans les nations. Vous connaissez l'histoire. C'est Israël, quand il désobéit, c'est ce que Dieu fait. Il les disperse dans les nations. Ça s'est toujours passé comme ça tout au long de l'histoire d'Israël. Et là, maintenant, il les a rassemblés dans leur pays. Sur la terre d'Israël. Alors il y en a qui contestent, oui, c'est pas juste, c'est pas juste. Vous pensez ce que vous voulez, c'est quand même Dieu qui dirige. Alors on en est là. Israël est une nation, quoi qu'on dise les antisémites, les antisionistes, les anti-tout ce que vous voulez, Israël est une nation parce que c'est Dieu qui les a ramenés là, sur leur territoire qu'il avait donné à Abraham. Voilà. C'est comme ça. Et puis, vous n'allez pas changer ça, c'est comme ça, puis ce ne sera pas autrement. Maintenant, la suite de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a deux visions, qu'est-ce qu'on voit? Il y a deux visions, deux possibilités. Il y a la vision du monde, qui est retransmise par les médias, et qui en général, ils sont contre Israël. Et puis, la vision des vrais chrétiens qui connaissent le plan de Dieu selon la parole écrite, selon ce que je vous ai lu, selon les prophéties. Et Israël est debout. Pour le moment, Israël est debout. Comme le dit le prophète, Israël est debout, mais Israël n'est pas encore vivant de la vie de Dieu. C'est la mort qui agit là-bas. C'est la mort qui agit là-bas. Et c'est ce que montre la télé, c'est ce que montrent les journaux, c'est ce qui scandalise le monde. Oui, il y a eu ci, il y a eu ça. Bien, oui, voilà, la vie de l'Éternel n'est pas encore dans Israël. Pour le moment, c'est un corps, c'est-à-dire une unité, debout, comme une armée, mais c'est mort. Il y a la mort, c'est la mort qui règne pour le moment. L'Esprit de Dieu n'a pas soufflé là-dessus. Mais le jour vient où Dieu va souffler sur eux et Israël sera en vie. De la vie même de Dieu. Et ça va se passer prochainement, très prochainement. Mais avant cela, Dieu rétablit aussi son Église, qui, depuis la mort des 12 apôtres, a sombré dans l'apostasie. Vous savez, l'histoire d'Israël, peuple de Dieu, peuple choisi, il n'y peut rien, hein, c'est Dieu qui a choisi. Eh bien, l'histoire d'Israël, c'est l'image de l'Église, le peuple de Dieu aussi. C'est pas nous qui avons choisi, c'est Dieu qui nous a choisis. Et puis, voilà, ben, on est aussi infidèle qu'Israël peut l'être. Et puis on revient, puis on se retourne, puis on revient, puis on se retourne. C'est l'histoire, une histoire chaotique. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, et puis on n'est pas toujours fidèle. Voilà, c'est ça. Donc l'histoire de l'Église en ce moment, c'est une histoire catastrophique. Aujourd'hui, l'Église souffre. Les chrétiens sont le peuple le plus persécuté sur la terre à l'heure actuelle. 245 millions de chrétiens sont persécutés actuellement de par le monde. Ça, c'est les chiffres officiels, c'est pas moi qui les invente. Vous avez, il y a un site qui s'appelle Porte Ouverte. C'est un site chrétien qui s'occupe de toutes ces choses-là. Et ils sont reconnus par les États comme étant très sérieux, portes ouvertes. Et ils annoncent 245 millions de chrétiens. Et c'est partout dans le monde. Ici en France, bon, on n'est pas encore. Ils s'attaquent aux choses matérielles, ils s'attaquent aux choses religieuses, des églises qui subissent des dommages, des cimetières qui sont vandalisés. Mais ça va s'aggraver, mes frères et sœurs. Je le sais, et je vous le dis, je vous l'annonce, ça va s'aggraver. Vous savez, quand j'allais au Burkina il y a 20 ans, alors, j'étais invité par des pasteurs. J'avais des auditoires de 2000, un peu plus même, 2000 pasteurs qui venaient m'écouter. On appelle ça des pastorales. Et je les enseignais et je leur annonçais, en tant que serviteur de Dieu, je leur annonçais que les choses allaient devenir graves. Mais ils n'y croyaient pas. J'étais là devant eux, je leur disais que la persécution arrivait, mais j'y croyais pas. Le Burkina, c'est un peuple, les gens sont calmes, sont gentils. Donc, comment voulez-vous qu'on ait une persécution? Comment voulez-vous? C'est pas possible. Bon, la pauvreté, d'accord, mais on voit vraiment pas comment c'est comme ça. Vous savez, on a l'esprit de prophétie ou on l'a pas. Hein. Alors, personne ne me croyait, à part une petite poignée de pasteurs. Et aujourd'hui, le Burkina s'enfonce dans l'horreur meurtrière, dans l'horreur meurtrière. J'ai des vidéos, je reçois des vidéos, parce que je connais des gens là-bas qui sont des officiels et qui m'envoient des vidéos et qui passeront jamais à la télévision, ça risque pas, c'est tellement violent. J'ai voulu les mettre sur Facebook, elles ont été immédiatement supprimées, parce que c'est d'une violence, des massacres dans les églises, des choses épouvantables. Alors je vous le dis. Ça vient sur la France. Je leur ai dit à eux, ils m'ont pas cru, maintenant je vous le dis à vous. Croyez-moi, ça vient sur la France. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais je vous dis ça afin que vous sachiez que l'Éternel vous aura averti et que vous reconnaissiez que l'Éternel est l'Éternel Dieu, qui sait tout à l'avance et qui dit ça à son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, il vous dit, quittez les grandes villes. Quittez les grandes villes. Bon, vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous dis, mais moi je vous l'aurais dit. Pour le moment, Dieu est en train de rétablir Israël et il est aussi en train de rétablir son Église qui est malade, qui est apostate. Elle est apostate. Pourquoi la paix ne règne-t-elle pas? Dieu pourrait faire régner la paix, hein? Mais non, pourquoi la paix ne règne-t-elle pas? Ben parce que Israël et l'Église ont transgressé les bonnes lois de Dieu. Ils ont remplacé ce que Dieu dit par leur tradition. Ça ne plaît pas à Dieu. Tout ce qui se passe, c'est la conséquence de ces transgressions. Où est le coupable? Ce sont les transgresseurs. Alors Dieu leur envoie des Philistins, tout ce que vous voulez là pour les persécuter. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais en même temps, Dieu rétablit Israël et son Église. Les choses se font en même temps. Les Juifs, ils sont en train d'attendre le Messie. Les vrais chrétiens attendent le retour du Messie. C'est-à-dire la même personne, hein. Nous attendons la même personne. Les Juifs et les vrais chrétiens attendent la même personne, mais les Juifs savent pas que c'est Jésus. Les Juifs tourneront leur regard vers lui, vers celui qu'ils ont percé, et ils pleureront. On va le lire, on va le lire. C'est aussi une prophétie qui a été donnée avant la naissance de Jésus, avant la naissance de Jésus par le prophète Zacharie. Au chapitre 12, verset 9. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Voilà, si vous n'êtes pas un croyant, je vous annonce que toutes les nations vont se mettre d'accord pour attaquer Israël. Vous ne me croyez pas? Ben, vous le verrez quand même. C'est comme ça. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors, je déverserai sur la famille de David, donc sur Israël, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur celui sur lui comme on pleure sur un premier-né. Les Juifs vont reconnaître Jésus à un moment donné. Alors, où est-ce qu'on en est dans l'histoire? Où est-ce qu'on en est dans l'histoire? Nous sommes à la vallée de, à la veille de l'apparition de l'Antichrist dont je vous parlais dans ma précédente prédication. C'est un homme impie qui va régner 7 ans sur le monde. C'est ce que nous préparent les politiciens, en fait. La mondialisation. Et il y aura un dictateur mondial, ce sera l'Antichrist. En fait, ils sont en train de faire le lit de l'Antichrist. Qui croit ces choses? Personne. Il y a juste l'épouse de Christ, c'est tout. Les autres, non, ils ne croient pas. Ils disent, moi, j'ai des bobards, qu'est-ce que tu racontes, des vieilles histoires, des vieilles légendes. Les gens ont toujours fait ça. Chaque fois que Dieu parle, les gens rigolent. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il faut vraiment être bête pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. Il faut être bête pour croire que les... Tiens, j'ai une montre, là. Ben voilà, il n'y a pas d'horloger qui a fabriqué cette montre. Non, il n'y a pas d'horloger. Les pièces se sont fabriquées par hasard, hein, comme ça. Voilà. Et puis, elles se sont mises ensemble, et puis ça fonctionne, ça fait tic-tac, et puis ça monte l'heure exacte. C'est par hasard. Il n'y a pas d'horloger. Non, il n'y a pas d'horloger du tout. Il n'y a pas de fabricant, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de Dieu. Faut-il être bête. Et ils disent que c'est nous qui sommes bêtes. Il y en a qui me disent, hey Michel, qu'est-ce que t'as fumé pour dire des conneries comme ça? Et comme ça, ils me parlent. Bon. Croyez votre Bible. Croyez votre Bible. L'Antichrist sera le contraire de Jésus. L'Église, elle dort en ce moment, elle cauchemarde. Mais son époux, Jésus-Christ, va venir enlever son épouse. Pas toute l'Église, hein, juste ceux qui sont fidèles. Fidèles à quoi? Fidèles à la parole de Dieu. Fidèle à ce que Dieu a déclaré. Et la terre sera abandonnée par Dieu. Ça sera l'horreur. Déjà, Dieu nous a laissé tomber au jardin d'Éden et il a dit maintenant, vous avez choisi, c'est le diable qui est le prince de ce monde. Mais maintenant encore, il a ses enfants sur terre, le Saint-Esprit est en eux et ça retient le mal. Ça empêche que le mal s'en donne à cœur joie. Mais quand l'épouse de Christ sera enlevée, là, il n'y aura plus rien pour retenir le diable. Et ça sera l'horreur. Dieu laissera complètement tomber tout. La terre sera livrée complètement à elle-même. Et ça sera l'horreur. Alors pour ceux qui vont rester là, ça sera épouvantable. Vous vous plaignez là. Vous ne pourrez même plus vous plaindre. Vous crèverez. Ou alors vous vous soumettrez. Vous deviendrez des collabos du diable. L'Antichrist sera exactement le contraire de Jésus. Bon, il fera des miracles pour séduire ceux qui lui appartiennent, hein. Il fera des miracles. Mais il contrôlera la vie politique, il contrôlera la vie économique et religieuse sur le monde entier. Oh, il va faire des belles choses aussi. Comme Hitler avait fait des belles choses, des autoroutes et des trucs comme ça. Hein. Là aussi, l'Antichrist, il fera des belles choses. Hein. Il va... supprimer, par exemple, la faim dans le monde. Il n'y aura plus personne qui aura faim. Tout le monde mangera sa faim. Il y aura des médicaments pour tout le monde. Ça sera... Et tout le monde dira, ah, vraiment, c'est Christ. Vraiment, c'est Dieu. Voilà. Comme ça. Vous ne croyez pas. Si vous restez sur la terre, vous le verrez. Parce que c'est pour dans bientôt, là. Hein. C'est pour dans très bientôt. Il contrôlera la vie politique, économique, religieuse, sur le monde entier. Croyez votre Bible. Lisez 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Notez, hein. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. C'est très bien expliqué. Et puis lisez aussi Apocalypse 13, versets 1 à 18. Non, Michel, j'ai pas de Bible. Alors là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es chrétien, t'as pas de Bible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es comme un soldat qui est au milieu d'un champ de bataille et puis qui a pas d'arme, voilà. Puis t'es là comme un idiot. J'ai oublié mon arme. Ah ben non, ben j'ai pas d'arme. Achète-toi une Bible. Achète-toi une Bible. Vous voulez pas vous acheter une Bible? Tant pis pour vous. Vous êtes comme un malade qui a besoin d'un rétablissement. Et qui va voir le médecin qui vous dit, voilà, il faut prendre tel et tel machin, il faut prendre ci, il faut prendre ça, puis vous vous sortez, puis vous dites, ah ben non, moi je vais faire autrement. Ok, fais comme tu veux, fais comme tu veux. À la limite, je m'en fous, je te connais pas. Mais je suis contraint par le Saint-Esprit à vous avertir, à vous dire ces choses. Et maintenant, je suis innocent de votre sang parce que je vous l'ai dit. Achète-toi une Bible ou débrouille-toi avec ta religion apostate. Voilà, c'est cru. Quelqu'un m'a écrit dernièrement, oh là là, tu ne vas pas par quatre chemins, et j'ai entendu. Non, je ne vais pas par quatre chemins. Pourquoi est-ce que je prendrais, pourquoi est-ce que je vous parlerais avec un ton doucereux? Mais non, c'est épouvantable ce qu'on va vivre. Je ne peux pas vous en parler comme si je vous parlais du petit chaperon rouge. Ou de la Belle au bois dormant, ou de je sais pas quoi. Non, non, c'est sérieux. Donc, je suis obligé de vous parler comme ça. Alors, soit tu fais ce que je dis, tu achètes une Bible, tu la lis, tu cherches, ou alors tu te débrouilles comme un soldat au milieu d'un champ de bataille, sans armes, puis tu paniques. Tu paniqueras, hein, tu paniqueras. Une fois que l'épouse de Christ aura été enlevée, vous souffrirez 7 ans dans l'horreur la plus totale. Il n'y aura jamais eu sur la terre quelque chose d'aussi horrible. Vous souffrirez à moins de pactiser avec l'ennemi. Ou alors ça en France, n'est-ce pas? Ça pour pactiser avec l'ennemi. Hein, on connaît l'histoire. Faire du lèche-botte, n'est-ce pas? Être collabo. Ah, ouais. Enfin, c'est vous qui voyez. Hein. Et puis, au bout de 7 ans d'horreur, Jésus reviendra du ciel, tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui. Toi-même, là, qui rigole, tu fléchiras les genoux devant lui. Je te le dis, un jour, tu fléchiras les genoux devant lui et tu penseras, Michel Janton me l'avait dit. Comment je sais qu'il reviendra du ciel? Parce que quand il est monté au ciel, les anges sont venus vers les apôtres et ils ont dit, il reviendra de la même manière qu'il est parti. C'est-à-dire que quand vous verrez l'Antichrist arriver, il ne viendra pas du ciel, lui. Mais quand Christ reviendra, lui, il viendra du ciel, miraculeusement. Et tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui. Même tes genoux à toi, si tu es resté sur la terre, et si tu n'es pas mort, eh bien tu le verras, tu fléchiras les genoux. Et pendant 1000 ans, Jésus-Christ régnera avec son épouse sur la terre. Mais il ne régnera pas comme un doux agneau, gentil, comme quand il était en Israël, Jésus était très gentil, quoique de temps en temps il se mettait en rogne, et c'était pas rigolo à voir. Hein. Mais là, ça va être terrible. La Bible nous dit qu'il reviendra avec une verge de fer, c'est-à-dire ça va cogner. Eh oui, ça ne sera plus un agneau, ça sera un lion. Un lion. T'as déjà entendu parler du lion de Juda? Voilà. Et tous les incrédules d'aujourd'hui qui se moquent de moi, qui se fichent de moi, l'autre jour il y en a qui m'a écrit « L'Antichrist c'est ta mère ». Et tous les incrédules d'aujourd'hui seront obligés de croire, obligés, parce qu'ils verront, ils le verront. Ils ne pourront pas faire autrement que de croire, puisqu'ils le verront. Plus personne ne lèvera sa langue pour dire « Oui, mais moi la Bible, vous savez, elle a été falsifiée ». Vous savez, faut pas l'apprendre à la lettre. Et puis, de toute façon, la foi, c'est personnel. Moi, j'ai ma propre foi, et vous savez... Est-ce que vous êtes catholique? Ah, vous n'êtes pas catholique? Ah, ben, ça m'étonne pas, alors. Oui, bien, il y aura plus personne hein, pour dire des trucs pareils. Il y aura plus personne pour dire... Moi, j'ai ma conviction personnelle. Ou alors, moi, Dieu m'a révélé. Ou alors, moi, non, j'ai pas besoin de la Bible. Dieu me parle à moi directement. Il y aura plus de nouilles comme ça pour parler. Il y aura plus. Ça sera terminé. Oh, vous savez, Dieu, c'est pas une personne, c'est une énergie. Ouais, tralalala, lalala, l'air, tout va bien, à part tout ça, madame. Il y aura plus de tout ça. Ce sera terminé. Il y aura plus de, hey, Michel Janton, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as fumé pour nous dire des trucs pareils? Il y aura plus. Il y aura plus de moqueurs. Vous serez là, rampé devant Jésus. Obligé de vous soumettre. Pendant 1000 ans, ça sera comme ça. Plus personne parlera comme ça, plus personne, il n'y aura plus de moqueurs, sera terminé. Puis au bout de 1000 ans, ce sera le jugement. Puis après, ce sera la fin du monde, mais pas avant. Il fera une nouvelle terre, un nouveau ciel, voilà. Donc si vous faites bien le calcul, si Jésus vient chercher son épouse aujourd'hui, ben, il y aura 7 ans de tribulation, plus 1000 ans du règne de Jésus. Donc Jésus, la fin du monde, c'est pas avant 1007 ans. Si Jésus vient chercher les siens aujourd'hui, eh bien la fin du monde, ça sera dans 1007 ans. Donc oui, vous voyez, ceux qui prévoient, Paco Rabanne qui prédisait la fin du monde, mais lui au moins il était honnête. Il a dit, si je me suis trompé, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Il s'est trompé, plus jamais on a entendu parler de lui. C'est pas comme Claude Inierski qui prophétise que Jésus va revenir, puis il revient pas, puis 4-5 fois il prophétise, il donne des nouvelles dates, et puis il se trouve toujours des excuses, et puis même il accuse ceux qui croient pas en lui. Non mais c'est quoi ce cirque? Jésus dit, vous ne savez ni le jour, ni l'heure, soyez prêts. Au moins, Paco Rabanne était honnête, pas comme l'autre là. Alors Israël est un corps mort, la vie n'est pas encore là-bas, c'est la mort qui agit là-bas, c'est vrai. Quant à l'Église, ben elle dort à point fermé, les églises sont remplies de saleté, d'immondices, de charognerie, de scandales, de grosses pétasses, de pédophiles et compagnie. Vous aimez ça? Ben restez-y. Ça vous ressemble, c'est pour ça que vous aimez ça. Il y a un problème d'ordre spirituel. Mais si vous aimez vraiment Jésus-Christ, sortez de là et vivez votre foi avec simplicité en restant fidèle aux Saintes Écritures. Alors Jésus est en train de rétablir Israël petit à petit. Jésus est en train de rétablir son Église petit à petit, et c'est pas très visible, mais il le fait. Alors la question que je pose, c'est, t'es qui toi? Qui es-tu? Est-ce que tu es celui qui écoute ce que Dieu dit et qui entre dans le processus du rétablissement, ou est-ce que tu es un de ces insouciants comme la foule qui se moquait de Noé quand il était en train de construire l'arche? Ah, Noé, ah, il construit un bateau au milieu d'une forêt, l'idiot. Oui, il y avait de quoi rire. Ils ne se sont pas gênés, ils ont ri, jusqu'au jour où Dieu a fermé la porte et c'était fini. Alors que Dieu ouvre tes yeux, les yeux de ta tête, les yeux de ton cœur, les yeux de ton esprit, afin que tu vois clair. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, je te prie. Oui, c'est vrai, j'étais un peu dur, Seigneur. C'est vrai, j'ai parlé dur. Mais parce que j'aime les gens. Je voudrais qu'ils soient tous sauvés. Je voudrais qu'ils soient tous enlevés avec toi. Je voudrais qu'ils soient tous heureux. Je voudrais pas qu'il y ait toutes ces horreurs. Alors j'essaie d'élever ma voix, de crier, de dire les choses de façon à ce qu'ils comprennent, qu'ils se rendent compte que c'est sérieux. Pardonne-moi si j'ai été trop dur, mais... Bon, j'ai fait de mon mieux et je prie pour que ceux qui sont les tiens te suivent. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Au revoir.